Alors, bonsoir à vous et merci d'être venu pour écouter ce soir Marilène Patou-Mathis qui va nous présenter son dernier livre. Et vous allez voir tout à l'heure qu'elle en a écrit d'autres. Marilène Patou-Mathis travaille au CNRS. Elle est directeur ou directrice, je ne sais jamais comment il faut dire, de recherche au CNRS. Elle travaille au Muséum d'histoire naturelle de Paris, dans le département de préhistoire, où elle dirige l'unité d'archéozoologie. Alors, archéozoologie, c'est peut-être un mot un peu barbare pour certains d'entre vous, donc je vais tout de suite l'expliquer. Les archéologues, ce sont les personnes qui, à partir des ossements d'animaux et de ce qu'ils lisent dessus, elle vous expliquera mieux elle-même, hein, tentent de décrire les comportements de subsistance des hommes préhistoriques. Donc, Marilène Patou a beaucoup travaillé en archéozoologie sur la période moustérienne, qui est celle de l'homme de Néandertal. Et en fait, elle a une passion, je crois qu'on peut dire, pour l'homme de Néandertal. Elle vous en parlera. Enfin, vous allez vous en apercevoir tout seul plus tard. Elle travaille en France, à l'étranger, dans d'autres pays d'Europe, notamment en Crimée. Alors, elle nous présente aujourd'hui « Préhistoire de la violence et de la guerre ». Qui est un essai pour essayer de comprendre d'où viennent les racines de la violence, violence déclinée sous des formes différentes et variées, vous allez voir, et en particulier une de ces formes de violence étant la guerre. Alors, ce livre donc, a été écrit par une archéozoologue, mais il fait appel à de nombreuses autres disciplines. Il n'est pas question que d'archéologie, en fait. Et c'est peut-être d'ailleurs, je ne sais pas si elle sera d'accord avec ça, mais pas la première fois, mais je veux dire la fois où, de manière la plus importante, elle sort du domaine de l'archéologie pour aller vers la philosophie, l'ethnologie, la sociologie, enfin j'en oublie certainement, donc d'autres disciplines qui l'aident à soutenir son discours ou à alimenter son discours. Alors, ben maintenant, on va la laisser parler. Et la première question que je vais lui poser, c'est d'où est venue l'idée de ce livre ? Parce que c'est quand même une idée assez originale quand on parle de préhistoire et de période ancienne. Et ensuite, et dans la même réponse, en fait, de quelle manière il s'est construit, ce livre ?
Oui, bonjour, merci de cette introduction. Alors déjà, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. La première raison, c'est lorsque j'ai travaillé sur mon précédent livre sur le sauvage et le préhistorique, Miroir de l'homme occidental, où là, j'avais commencé déjà à regarder ailleurs que seulement en préhistoire. Je m'étais aperçue que dans là, c'était surtout la notion de race, de différence, la vision de l'autre. Je m'étais aperçue qu'il y avait une double construction savante, d'une part, par les anthropologues, avec toute la biométrie, etc., qui a fait la notion de race à l'échelle des êtres, et aussi une construction imaginaire. Et qu'en fin de compte, dans cette imagination, c'était créé par les expositions universelles et par les musées, les premiers musées. Je parle là, bien sûr, de la fin du 19e et début du 20e. Et donc, il y avait ces deux aspects. Et en travaillant sur ça, j'ai rencontré souvent cette vision, donc pour le sauvage comme pour le préhistorique, d'être barbare, guerrier, violent. Voilà, c'était toujours dépeint, et surtout dans l'imaginaire, dépeint comme étant vraiment très, très féroce, enfin simiesque. Vraiment toujours des choses très, très péjoratives et toujours liées à la violence. L'homme préhistorique était violent. Voilà. C'était très, très fortement imprimé dans l'imaginaire, notamment à travers des romans préhistoriques. Hein, je vous parlerai bien sûr de la guerre du feu que vous connaissez tous. Et donc, à travers plein de romans, à travers des textes, à travers des illustrations, c'était vraiment ça. Et donc, ça, c'est la première chose. Je me suis dit, tiens, j'ai rencontré ça dans un contexte actuel qui est quand même un contexte de violence. Et du coup, j'ai essayé de dire, voilà, pourquoi il y a de la violence, des guerres, et tout, d'où ça vient? Est-ce que ça vient vraiment de la préhistoire? Est-ce que l'homme préhistorique, comme on l'a montré, est-ce qu'il était violent? Est-ce que, en fin de compte, la violence est intrinsèque ou pas à la nature humaine, à l'homme? Est-ce que nous portons des gènes de violence ou pas? Donc, bien sûr, j'ai réfléchi beaucoup sur les travaux de René Girard, hein, qui est quand même le père de cette notion de violence primordiale, qui était déjà bien sûr inspiré aussi de Freud, enfin bien qu'il ait combattu sur certains points, mais avec Freud et sa horde primitive, déjà rien que ça, la horde primitive, la société se... très brièvement, pour Freud, la société se serait construite sur, à l'origine sur la horde primitive composée du fils et du père. Et pour que la société existe, il faut tuer le père. Et bien sûr, après, il y a un repas cannibalique et donc les fils mangent le père. Et tout, pourquoi ils le mangent ? Parce que les fils n'avaient pas accès aux femmes, c'était que le père. Donc c'est un peu complexe, puisque de ça va naître le complexe d'Œdipe. Donc c'est, voilà, déjà Freud, lui aussi, va construire ça, donc en plein 19e siècle. Il entérine cette vision de la horde primitive, inspirée d'ailleurs le terme de horde primitive par Darwin. Et donc il va vraiment l'enraciner. Donc tout ça fait que dans l'imaginaire, dans la mentalité des gens, savants ou non savants, il y a ce côté donc, de voir cette violence primordiale. Donc, et est-ce que c'est vrai ? Voilà, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate qu'il y en a. Est-ce que c'est vrai ? C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était un peu un petit coup de colère, c'est ce que je dis dans mon introduction, parce que chez nous, en préhistoire, en archéologie, comme dans d'autres disciplines probablement, il y a toujours des choses qui traînent, des archétypes, des présupposés. Voilà, par exemple, un présupposé, on va dire, ceux qui ont Palasco, c'est forcément des hommes. Bon, moi, ça, je ne suis pas convaincue, je ne vois pas en quoi on peut savoir que les artistes qui ont Palasco étaient des hommes, c'est peut-être des femmes, mais bon, c'est dans l'imaginaire populaire, voilà, nous sommes dans cette vision. Et là, c'est pareil, on avait toujours ce côté de dire l'homme préhistorique, forcément, il est ancien, il est archaïque, il est violent. Nous sommes le fruit d'une évolution. Voilà, la vision de l'évolution linéaire, progressive et tout, toujours mieux, on est mieux que nos prédécesseurs. Et tout ça, c'était un peu agaçant parce que, voilà, l'homme était un... J'ai vu dans des journaux, l'homme est un tueur, l'homme préhistorique est un tueur, voilà, le singe tueur à nos origines. Bref, il y avait tout ça qui était un peu agaçant parce que je me suis posé la question, est-ce que ça repose vraiment sur quelque chose ou est-ce que c'est tout à fait... Dans cette vision du monde et voilà, la nature hostile, le pauvre homme préhistorique errant dans une nature hostile. Enfin bon, il y a des clichés comme ça et donc c'était un petit peu agaçant. Et donc j'ai essayé de voir à partir des travaux qui sont menés et qu'on connaît bien nous préhistoriens, donc de voir ce qu'il en était pour si c'est primordial, si nous sommes porteurs dès qu'on est humain, on est porteur de gènes de violence, donc on doit retrouver des traces forcément dans les sites archéologiques. Alors donc, j'ai commencé à regarder tout ça de près. Il y avait des sites que j'avais étudiés moi-même, des ossements et tout, notamment des ossements de sites cannibales. Donc là, j'avais des données personnelles, j'ai été regarder faire une synthèse. Et ce qui est intéressant à voir, bien entendu, c'est de remettre aussi dans les contextes. Et il est clair que ce qui ressortait, c'est qu'il y avait très très peu de marques, surtout après une bonne étude. Vous savez, chez nous, il y a des mots savants, et par exemple, quand on analyse du matériel archéologique, qui sort des fouilles que l'on fait, notamment au niveau du matériel osseux, etc., on fait une étude taphonomique, ce qui s'appelle, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir ce qui est vraiment dû à l'homme. Donc, on va regarder les traces sur les ossements. Et quand on a fait vraiment ce travail, en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de cannibalisme sur certains sites où il n'y en avait pas, où il n'y avait pas de traces, ce n'était pas dû à l'homme. Donc, après avoir épuré un peu tout ça, on se retrouve quand même avec un matériel qui montre qu'il y a vraiment eu des traces de violence et de cannibalisme. Mais c'est très peu. Je parle là pour le paléolithique. Hein, quand les hommes sont des chasseurs-cueilleurs, donc nomades, donc là, c'est rare. Alors, une deuxième question, c'est un constat, d'accord. Mais peut-être faut-il se méfier du fait qu'on peut très bien dire, oui, mais la démographie est faible. La conservation du matériel aussi peut manquer. C'est-à-dire que le temps fait qu'il y a beaucoup de destruction aussi du matériel. Donc, il y avait tous ces questionnements quand il faut, pour, à mon avis, essayer d'apporter des arguments qui tiennent la route, tenir compte de ça. Alors, j'ai une première réflexion par rapport à la démographie. Il est clair que la démographie, à cette période-là, est faible. Ça, c'est sûr. Mais le constat est quand même frappant, c'est que on a quand même des sites, on a beaucoup, beaucoup de sites maintenant, et je parle surtout pour les périodes récentes, paléolithique moyen avec les Néandertaliens et paléolithique supérieur avec les Sapiens, les Cro-Magnons, les premiers hommes modernes, en Europe, là je parle surtout de l'Europe, on a quand même maintenant beaucoup, beaucoup de matériel, même de restes humains, on en a quand même pas mal. Donc il y a quand même, proportionnellement, il y en a quand même relativement peu, alors que on voit tout de suite un changement important vers la fin du Paléolithique, vers déjà le Mésolithique, à peu près vers 12 000 ans, 10 000 ans, on voit déjà une légère augmentation, et alors qu'il n'y a pas tellement plus, c'est-à-dire que la démographie ne devait pas être tellement plus importante. Donc il y a quand même un fait, c'est qu'il y a cette augmentation de traces de violence, et surtout ce changement dans ces traces de violence, qui ne sont plus des traces de violence qu'on appelle interpersonnelles, ou sur un ou deux individus, mais qui vont devenir sur plus d'individus. Il y a une exception, un site un peu plus ancien, c'est la seule exception, et donc vous voyez comme quoi ça existe, donc on devrait en trouver d'autres s'il y en avait eu d'autres. C'est le site 117 qu'on appelle comme ça, au sud donc, de l'Égypte, dans du Soudan, et qui là a livré, c'est daté de 14 000 ans, et là a livré un premier massacre, alors c'est d'ailleurs avec des femmes, des enfants et des hommes. Mais sinon c'est le seul cas. Les autres, pour voir vraiment des traces de guerre, entre guillemets, de conflit, je préfère au départ parler de conflit, donc de conflit intergroupe, c'est vraiment à partir surtout de 6000 ans, 6500 ans. Et là, on voit vraiment des traces plus nombreuses. Ce n'est pas non plus énorme.
Pardon, si je peux t'interrompre, oui. Marilène. Donc, la disparition de l'homme de Néandertal ne serait pas due à une action violente de l'homme moderne?
Non. Donc voilà, c'est vrai que tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là aussi, on a imputé dans ce schéma toujours d'homme violent, on a imputé la disparition de l'homme de Natal à l'arrivée des sapiens en Europe. Ben non. Alors je ne dis pas que c'est pas pu arriver, mais en tout cas, on a vraiment aucune trace. Il y a vraiment zéro trace. Et d'ailleurs, je dirais aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Néandertal aurait pu aussi, à l'arrivée des sapiens, comme ils arrivent par petits groupes, hein, ce n'est pas les hordes d'Attila, donc c'est des petits groupes, ils auraient pu très bien, là aussi, les exterminer. Mais on n'a pas du tout de traces de violence, de traces de conflit. Donc, déjà, vous voyez qu'il y a l'enracinement, en tout cas, de la guerre n'est pas très ancienne pour nous, bien sûr, préhistoriens. Mais par contre aussi, ce que j'ai découvert, et là aussi c'est intéressant de voir, c'est que la violence donc, est multiforme, et la guerre est une de l'explosion le plus importante, et qu'elle n'est pas absente de la période paléolithique. Elle n'est pas absente chez les préhistoriques les plus anciens, puisque les traces de vraiment cannibalisme sûr, c'est 800 000 ans à Tapuerca en Espagne, et donc ça veut dire qu'il y a les premières traces. Alors, là aussi, il faut faire attention à cette histoire de cannibalisme. Je développe un peu, parce qu'il ne faut pas non plus aller très vite. Parce que si nous sommes dans l'endocannibalisme, c'est-à-dire que si nous sommes dans un cannibalisme funéraire, de rite funéraire, ce n'est pas un ennemi qu'on va manger, qu'on va tuer, qu'on va manger. C'est sa grand-mère, peu importe, le grand-père. Enfin, je schématise, mais la famille, le même du groupe, en dos du groupe. Donc là, il n'y a pas mort, il n'y a pas violence, il n'y a pas mort provoquée. C'est souvent un rite funéraire. Et ça s'est pratiqué par beaucoup, beaucoup de tribus, et ça a été encore très, très récemment encore pratiqué. Et donc là, il n'y a pas de violence. Donc c'est pour ça que nous devons faire très attention aussi quand on met en évidence déjà les traces, faut être sûr, et ensuite de savoir si on a affaire plutôt à une violence, c'est-à-dire à l'exocannibalisme, c'est-à-dire que là, vraiment, je vais tuer un ennemi et manger, le manger, ou si c'est le rite funéraire. Alors, vous voyez, là aussi, même si on met en évidence des traces, parce que certains, apparemment, sont vraiment des rites plutôt exo, c'est quand même pas évident à mettre en évidence, donc il faut être encore prudent. Mais ils existent. Il y a des traces, il y a des coups portés, là, on peut, il y en a quelques-uns. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que c'était donc présent dans ces périodes anciennes, mais d'une façon très limitée et toujours dans un contexte, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais pour vous faire comprendre, un contexte un peu rituel, un peu sacré. Contrairement à ce qu'on peut imaginer et ce qu'on verra plus tard, c'est pas pour aller prendre, faire le rap des femmes. Vous voyez, c'est encore un imaginaire. Vous voyez, le rap des femmes, ça vient de l'enlèvement des Sabines, sans doute ça a dû marquer les esprits. Donc, pas du tout, c'est pas pour prendre le bien, parce que les chasseurs-cueilleurs ont très peu de bien. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que le développement, c'est-à-dire que la forme la plus forte, la plus marquée, c'est quand même dans le conflit et dans la guerre. Ça, c'est tardif, mais la violence existe envers autrui, existe déjà dans les périodes plus anciennes, peut-être déjà 800 000 ans, mais toujours dans un contexte particulier, pas du tout un contexte de rivalité ou de vouloir posséder le bien d'autrui. Donc voilà, ça, c'était les premiers constats qui étaient quand même très intéressants.
Oui, alors ça commence à quel moment, ces conflits intergroupes?
Voilà.
Et alors, pourquoi? Quelle est la racine de ce genre de choses?
Alors justement, ce qui était, une fois qu'on constate ça, évidemment, on se pose la question pourquoi? Pourquoi, comme l'ont écrit certains, des sociétés pacifistes paléolithiques se transforment en sociétés guerrières au néolithique? Alors déjà, je voudrais dire qu'il faut... voir qu'à ces périodes-là, à la fin du Paléolithique, c'est une période extrêmement charnière et très importante où il se passe plein de choses. La première chose qui va se passer, c'est à la fin du Paléolithique, c'est un réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique en lui-même, c'est pas lui qui a fait engendrer de la violence. Mais par contre, il va provoquer certains changements et il va provoquer notamment, parce que c'est progressif, une première sédentarisation, parce que contrairement là aussi à une idée reçue, la sédentarisation commence avant la domestication des plantes et des animaux. Donc c'est parce qu'à un moment donné, les chasseurs-cueilleurs maîtrisent tellement bien leur subsistance, donc ils bougent beaucoup moins, et donc ils deviennent plus sédentaires. Et il y a ce phénomène qui se passe, et vous savez que la sédentarisation, on le constate encore aujourd'hui, fait que la démographie augmente. Et la démographie est un facteur de stress, c'est un facteur de problème, dans le sens où quand il y a une structure, un groupe qui est basé au niveau de ses comportements à la fois économiques et sociaux, est basé sur un nombre d'individus au sein d'un groupe, si ce groupe devient trop important, soit c'est une scission, hein, soit on sépare, il faut absolument se séparer, ou soit ça peut provoquer, donc pousser en tout cas à un changement d'économie. Donc la sédentarisation est après. Donc ce qui se passe avec ce réchauffement climatique, il va y avoir donc aussi la domestication des plantes et des animaux. Et tout ça se passe, là aussi, il faut faire attention, on a l'impression que d'un seul coup, tous les chasseurs-cueilleurs vont devenir, pas du tout, ça prend beaucoup de temps. En plus, il y a des chasseurs-cueilleurs qui se transforment, surtout dans toutes les régions du nord de l'Europe, dès le Mésolithique et tout, ils vont vers eux-mêmes, vers la domestication notamment du renne, par exemple. Et par contre, il y a bien sûr la grande arrivée des éleveurs et des agriculteurs qui viennent du Proche-Orient. Donc il y a plusieurs mouvements, il se passe plein de choses. Et donc ce changement économique, là aussi, va provoquer, c'est une espèce de jeu de domino, va provoquer des changements sociétaux. Pourquoi? Parce que si vous voulez, quand vous êtes un groupe de chasseurs-cueilleurs, moi j'ai eu la chance de vivre au Kalahari chez les Bushmen, déjà, vous êtes nomade, ça ne veut pas dire que vous prenez votre baluchon tous les jours, hein, mais vous avez au minimum deux grands campements, un campement estival, un campement hivernal, et vous avez peu de biens. Peu de biens, vous partagez, c'est-à-dire que la cueillette et surtout la chasse, les proies donc, sont partagées, ce sont des petits groupes entre 30 et 50 personnes, hein, les enfants compris. Et donc, il y a cette notion de partage, il y a des biens un peu en communauté, et il n'y a pas de surplus. Il y a un petit peu de stockage, mais ça, c'est vraiment à la fin de l'automne, on stocke un peu pour passer l'hiver un peu mieux, mais il n'y a pas véritablement de stockage. Alors que là, le changement économique de prédateur à producteur va faire qu'il va y avoir du surplus. C'est-à-dire que la domestication des plantes, hein, c'était d'abord par les plantes, excepté la domestication du chien, mais pour tout ce qui est l'élevage alimentaire, donc c'est à postérieur à la domestication des plantes, il va y avoir donc une augmentation de nourriture, donc on va stocker. Hein. Les autres mangeaient, déjà pour les problèmes de stockage, ce n'était pas évident chez les chasseurs-cueilleurs de garder longtemps des stocks de nourriture, déjà de fait. Et en plus, le partage des points, bon, ça, c'était pour tout un clan et ça faisait quelques jours. Et donc, on arrivait comme ça, il n'y avait pas de déchets, entre guillemets, il n'y avait pas de surplus. Alors que là, il va y avoir du surplus. C'est-à-dire qu'on va produire les céréales qui vont être domestiquées, il va y avoir beaucoup plus de céréales que de bouches à nourrir. Donc, on va faire des silos. Donc, on va construire des silos, on va stocker. Et là, évidemment, c'est un changement très important de structure. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, il va se passer entre les peuples qui sont encore chasseurs-cueilleurs et ceux qui sont déjà dans l'élevage et l'agriculture. Donc là, il y a des risques de conflit parce qu'on voit très bien, à un moment donné, je connais bien les peuples chasseurs-cueilleurs. Au départ, ça a été des problèmes de conflit pour tous les groupes chasseurs-cueilleurs par rapport à des éleveurs. Je pense aux Bushmen, je pense aux Aborigènes d'Australie. C'est qu'eux, ils vont voir des animaux domestiques, ils vont croire que, voilà, qu'ils peuvent aller chasser l'animal domestique. Donc, ça va être un problème de conflit. Les gens envisagent souvent que c'est parce qu'ils veulent prendre la nourriture, une espèce de mentalité à l'époque. Non, c'est parce qu'ils voient des bestioles dans une prairie, ben, ils vont tirer les bêtes. Et donc, c'est signe de ces problèmes et conflits. Autre chose aussi, même, on voit se développer au départ dans les conflits de ces périodes-là, ils sont d'abord intra-communautaires. C'est-à-dire que c'est au sein même de la communauté qu'il va y avoir des conflits et qu'il va y avoir la violence. Parce que, évidemment, à un moment donné, la notion de propriété va apparaître. La notion aussi, qui travaille les champs, qui s'occupe de construire les silos et de remplir les silos, qui travaille dans les champs. Donc, il va y avoir une hiérarchie, une division du travail qui va s'installer. Alors,
Marie-Hélène, pardon de te couper. Il y a peut-être une question, là, en archéologie. Comment fait-on pour distinguer une violence intra-communautaire et une violence intergroupe ?
Alors, donc ça a été travaillé notamment par des gens comme Zamit et Guylaine, et où on a une analyse des matériaux découverts. C'est-à-dire que quand vous avez dans les sites des groupes, des ossements humains et tout, là maintenant en plus on fait des analyses de parenté, des analyses génétiques, donc pour voir les liens de parenté, est-ce que ce sont les mêmes familles, etc. Il y a aussi l'analyse des céramiques. C'est pour ça que dans certains sites, on a mis en évidence qu'en fin de compte, ce village avait été massacré par un autre village, mais qui ne faisait pas les mêmes céramiques, qui était étranger à ce village. Donc là, on voit quand il y a une venue extérieure, d'après les matériaux. Et donc là, c'est aussi intéressant de voir que ces conflits sont vraiment, vraiment abondants vers 4500 ans. Au moment où il y a encore une nouvelle migration, de gens venus du sud, etc., où il y a un grand mouvement, ce qu'on appelle la période danubienne. Du Rubané. Il y a vraiment un mouvement très important là, de déplacement de population. Et là, on voit l'augmentation des conflits intercommunautés. Alors qu'avant, c'est surtout à l'intérieur. Enfin, surtout, il y a des conflits, mais beaucoup à l'intérieur. Et ce qu'on voit arriver, et là, c'était très intéressant aussi, récemment, à Far les Oliviers et dans d'autres sites, où on a montré qu'il y avait déjà des esclaves. Parce qu'on les a montrés dans les sépultures. Et dans les sépultures et dans les fosses et tout, ils ont bien montré qu'il y avait un défunt central qui était bien mis, qui était avec des ornements, etc. Et puis jeté comme sur le bord, etc. Vraiment n'importe comment, sans ornement. Et en plus, quand on fait la pathologie des squelettes, on voit que ce sont des travailleurs. Hein. Et donc, ils ont bien fait des bonnes analyses qui ont montré qu'il y avait déjà ces esclaves. Et ça, c'est logique pour travailler les terres. Eh ben, quand vous avez un groupe qui est relativement petit, ça ne suffit plus. Il faut de la main-d'œuvre. Et vous pensez bien qu'à l'époque, la main-d'œuvre, voilà, il fallait la chercher ailleurs. Et souvent, vraiment, ça résulte de conflits. Et donc, les esclaves étaient souvent des prisonniers de guerre. Donc, je ne peux pas, bien sûr, expliquer tout ce qu'il y a dans le livre, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tout s'imbrique. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est multicausal. C'est-à-dire que ça va se développer parce que tout va devenir multicausal. À un moment aussi, à l'intérieur, il va y avoir une hiérarchie, les élites apparaissent. Et comment on sait qu'il y a des élites qui apparaissent ? Parce que dans les tombes, tombes où on voit, à part de quelques petites exceptions, mais souvent des choses assez homogènes, il n'y a pas vraiment de tombes riches et de tombes pauvres, d'un seul coup, on va voir arriver des tombes riches. En plus, quand on fait l'étude des squelettes et tout, on voit très bien que ce sont des riches qui n'ont pas beaucoup travaillé. Et à côté, des cimetières, enfin, des nécropoles, où là, on voit qu'il y a vraiment toute l'étude qu'on appelle paléopathologie, on voit qu'il y a vraiment des groupes différents. Ça se différencie, il y a une hiérarchie. Et c'est normal, si vous avez un silo, il faut bien le faire garder. Donc vous allez arriver, la caste, on voit arriver tout de suite la caste des guerriers. Et évidemment, l'archéologie, il faut tout regarder. Et un autre indice très important, c'est regarder l'art pariétal, l'art rupestre, c'est-à-dire les peintures et les gravures qui sont faites à ces époques-là. Au paléolithique, nous avons pensé à Lascaux, à Chauvet, à Altamira, à Fond de Gaume, là, pas loin d'Ordogne, etc. Il n'y a absolument pas de scène de guerre. Il n'y a pas de scène de conflit. Il n'y a pas de scène de violence, il n'y a pas de scène de guerre, très peu de scène narrative. On est vraiment dans autre chose, on est dans les animaux, etc. Alors qu'à la fin du Mésolithique, début néolithique, dans ce qu'on appelle l'art du Levant, qu'est-ce qu'on voit arriver ? On voit arriver des archers, parce que là, l'arc apparaît, et on voit arriver aussi des scènes de conflit, de groupes d'archers contre groupes d'archers. On voit arriver des scènes aussi, entre guillemets, peut-être de sacrifice, c'est-à-dire qu'on voit des hommes ligotés. Donc il se passe quelque chose dans ces périodes-là qui est montré aussi par l'art. Donc il y a un changement très important et qui est constaté aussi par l'art. Donc vous voyez, tous ces arguments vont quand même vers ce sens où ça se développe. Alors, la cause de dire ce sont les inégalités, etc. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais j'ai essayé de montrer. C'est assez intéressant parce que c'est un peu ce qui nous vient à l'esprit. Ce n'est pas du tout. La violence apparaît avant les inégalités. C'est plutôt une conjugaison de faits plutôt sociétaux. C'est-à-dire que la société se transforme. Et on passe probablement aussi au niveau de la vision de la femme, la position de l'homme et de la femme, à des choses un peu différentes. Parce que quand il commence à avoir du bien, du stock, et qu'on veut transmettre ce bien, avant le bien est collectif, là le bien devient plus par famille, plus par... Et donc là, il faut évidemment être sûr de sa descendance. Parce que la seule sûreté, sécurité et tout, c'est de faire des lois et donc de faire un patriarcat comme il existe maintenant. Et donc, probablement que la relation entre les gens, entre les individus au sein du groupe, mais aussi entre les gens, entre les femmes et les hommes, tout ça commence à changer. Et ça, c'est bien montré. Il y avait des gens remarquables comme Convin, ça a été aussi discuté, mais des choses intéressantes sur le fait qu'en même temps, on voit qu'il y a un remplacement des divinités. C'est-à-dire qu'on était plus au début du néolithique, et peut-être pour certains d'ailleurs les Vénus paléolithiques, on était plus au début du néolithique dans une grande déesse, dans une déesse mère, une grande mère. Et là, on voit arriver à la fin du néolithique, au début de l'âge du bronze, où là, c'est vraiment l'arrivée des vrais guerriers, là, avec des armes métalliques, on voit la transformation, on voit arriver les divinités masculines. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que... c'est un constat, ce n'est pas un jugement, et que ce développement de la violence et des conflits, c'est quand même lié aussi au développement du patriarcat, à l'apparition des guerriers, donc un côté plus masculin de la société. Donc voilà, c'est pas, je ne veux pas faire un féminisme outrancier, mais ce que je veux dire, c'est un constat. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, et alors on a l'apogée quand même au début de l'âge du bronze, où là, on a, même sur les dernières peintures néolithiques, au l'âge du bronze, on voit apparaître vraiment des guerriers, des élites, on voit apparaître des espèces de personnages plus grands que les autres, et qui sont toujours très guerriers. Et bien sûr, on a des caches, des trésors. Et ces trésors, vous savez ce que c'est ? C'est des haches de guerre. Et là, la première fois, on a pas seulement des haches qui peuvent servir à tout, mais là, vraiment des armes de guerre qui apparaissent, alors qu'avant, on ne sait pas toujours si on est en arme de chasse ou de guerre. Donc vraiment, ça va être à partir de 3000 ans, 3500 ans, là, c'est vraiment bien institué. Donc vous voyez, c'est une réflexion qui était axée sur essayer de comprendre comment tout ça peut se mettre ensemble. Et il en résulte quand même que c'est une construction. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette violence et tout, elle repose sur le fait qu'on va percevoir l'autre. Bon, c'est la notion de bouc émissaire, développée aussi par René Girard. L'autre comme l'ennemi ou bien comme celui qui vous empêche d'être heureux. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'à ce moment, à un moment donné, les violences sont plutôt déclenchées par ces élites. Et donc, pour peut-être asseoir leur autorité, etc. Et pour ça, on va nous dire, voilà, si, je ne sais pas, la récolte est mauvaise, si t'es pas bien heureux, etc., c'est la faute de l'autre. Et donc, il y a quand même une vraie construction. C'est-à-dire que ce n'est pas une violence innée qui va faire qu'on va, d'une façon ancestrale, comme ça, taper l'autre ou le tuer. Et que même maintenant, et je vous conseille de lire, par exemple, France Deval, on va même maintenant, et puis les neurobiologistes, on va même maintenant penser que plutôt que justement que la violence ancestrale, on est plutôt dans l'empathie. Et que si nous sommes là, nous les homo sapiens, c'est peut-être plutôt parce que nous avons au départ construit une société basée sur l'empathie. Alors je crois que ce n'est pas parce que nous sommes dans un monde de bisounours, hein. C'est que c'était obligatoire, c'est-à-dire que pour qu'on survive, il fallait qu'on ait ces rapports-là. C'est-à-dire que si dans une société comme ça, petite, on a des relations essentiellement agressives, ça ne peut pas survivre. Je prends juste un exemple, parce que je ne peux pas tout citer, mais un seul exemple. Vous imaginez, il faut vous mettre à la peau même on va prendre un Magdalénien, on va prendre un Cro-Magnon vers 14 000 ans, vous êtes dans des groupes éparpillés. Vous êtes bien obligé, les troupes de 30 à 50, vous êtes bien obligé pour vous reproduire d'aller voir le voisin. Et donc d'entretenir un réseau, ce qu'on appelle un nexus, un réseau d'échange, d'ailleurs qu'on peut voir à travers peut-être l'échange des éléments de parure, des travaux sur ça dans notre discipline. Vous êtes obligé, c'est un fait, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est-à-dire que sinon on n'est plus là, on sait très bien que si on se reproduit au sein de son groupe, ça dégénère très très vite. Donc, je pense que c'est, si vous voulez, que le mode de vie, la façon dont la société est construite, favorisait la non-violence. Alors qu'on voit bien que quand on commence à faire un système où, en fin de compte, il va y avoir ceux qui possèdent, ceux qui ne possèdent pas, ceux qui ont quand même pouvoir, ceux qui n'ont pas de pouvoir, etc., on voit tout de suite que ça commence déjà à engendrer des conflits au sein du groupe et après entre les groupes. Voilà, merci d'être venu.